peu de dévouement du valet de chambre pour la maison était le grand sujet de querelle entre ces deux femmes et le muletinier, dont la froideur avait eu pour résultat d'exalter l'attachement de Josette et de la Duègne. Cette lutte, si mesquine en apparence, influa beaucoup sur l'avenir de cette famille quand plus tard elle eut besoin de secours contre le malheur. Balthazar redevint si distrait qu'il ne s'aperçut pas de l'état maladif dans lequel était Joséphine. Il prit Jean sur ses genoux et le fit sauter machinalement en pensant au problème qu'il avait dès lors la possibilité de résoudre. Il vit apporter le bain de pieds à sa femme qui, n'ayant pas eu la force de se lever de la bergère où elle gisait, était restée dans le parloir. Il regarda même ses deux filles, s'occupant de leur mère, sans chercher la cause de leurs soins empressés. Quand Marguerite ou Jean voulaient parler, Madame Claès réclamait le silence en leur montrant Balthazar. Une scène semblable était de nature à faire penser Marguerite, qui, placée entre son père et sa mère, se trouvait assez âgée, assez raisonnable déjà, pour en apprécier la conduite. Il arrive un moment, dans la vie intérieure des familles, où les enfants deviennent, soit volontairement, soit involontairement, les juges de leurs parents. Madame Claès avait compris le danger de cette situation. Par amour pour Balthazar, elle s'efforçait de justifier, aux yeux de Marguerite, ce qui, dans l'esprit juste d'une fille de 16 ans, pouvait paraître des fautes chez un père. Aussi le profond respect qu'en cette circonstance, Madame Claès témoignait pour Balthazar, en s'effaçant devant lui, pour ne pas en troubler la méditation, imprimait-il à ses enfants une sorte de terreur pour la majesté paternelle. Mais ce dévouement, quelque contagieux qu'il fût, augmentait encore l'admiration que Marguerite avait pour sa mère, à laquelle l'unissaient plus particulièrement les accidents journaliers de la vie. Ce sentiment était fondé sur une sorte de divination de souffrance, dont la cause devait naturellement préoccuper une jeune fille. Aucune puissance humaine ne pouvait empêcher que parfois un mot échappé, soit à Martha, soit à Josette, ne révélât à Marguerite l'origine de la situation dans laquelle la maison se trouvait depuis 4 ans. Malgré la discrétion de Madame Claès, sa fille découvrait donc insensiblement, lentement, fil à fil, la trame mystérieuse de ce drame domestique. Marguerite allait être, dans un temps donné, la confidente active de sa mère, et serait au dénouement le plus redoutable des juges. Aussi tous les soins de Madame Claès se portaient-ils sur Marguerite, à laquelle elle tâchait de communiquer son dévouement pour Balthazar. La fermeté, la raison qu'elle rencontrait chez sa fille, la faisait frémir, à l'idée d'une lutte possible entre Marguerite et Balthazar, quand après sa mort, elle serait remplacée par elle dans la conduite intérieure de la maison. Cette pauvre femme en était donc arrivée à plus trembler des suites de sa mort que de sa mort elle-même. Sa sollicitude pour Balthazar éclatait dans la résolution qu'elle venait de prendre. En libérant les biens de son mari, elle en assurait l'indépendance et prévenait toute discussion en séparant ses intérêts de ceux de ses enfants. Elle espérait le voir heureux jusqu'au moment où elle fermerait les yeux. Puis elle comptait transmettre les délicatesses de son cœur à Marguerite, qui continuerait à jouer auprès de lui le rôle d'un ange d'amour, en exerçant sur la famille une autorité tutélaire et conservatrice. N'était-ce pas faire luire encore, du fond de sa tombe, son amour sur ceux qui lui étaient chers? Néanmoins, elle ne voulut pas déconsidérer le père aux yeux de la fille, en l'initiant avant le temps aux terreurs que lui inspirait la passion scientifique de Balthazar. Elle étudiait l'âme et le caractère de Marguerite, pour savoir si cette jeune fille deviendrait par elle-même une mère pour ses frères et sa sœur, pour son père une femme douce et tendre. Ainsi, les derniers jours de Madame Claès étaient empoisonnés par des calculs et par des craintes qu'elle n'osait confier à personne. En se sentant atteinte dans sa vie même, par cette dernière scène, elle jetait ses regards jusque dans l'avenir, tandis que Balthazar, désormais inhabile à tout ce qui était économie, fortune, sentiments domestiques, pensait à trouver l'absolu. Le profond silence qui régnait au parloir n'était interrompu que par le mouvement monotone du pied de Claës, qui continuait à le mouvoir sans s'apercevoir que Jean en était descendu. Assise près de sa mère, de qui elle contemplait le visage pâle et décomposé, Marguerite se tournait, de moment en moment, vers son père, en s'étonnant de son insensibilité. Bientôt la porte de la rue retentit en se fermant, et la famille vit l'abbé de Sully s'appuyer sur son neveu, qui, tous deux, traversaient la cour. « Ah, voici monsieur Emmanuel, » dit Félicie. « Le bon jeune homme, » dit madame Claës, en apercevant Emmanuel de Sully. « J'ai du plaisir à le revoir. » Marguerite rougit en entendant l'éloge qui échappait à sa mère. Depuis 2 jours, l'aspect de ce jeune homme avait éveillé dans son cœur des sentiments inconnus et dégourdi dans son intelligence des pensées jusqu'à leurs inertes. Pendant la visite faite par le confesseur à sa pénitente, il s'était passé de ces imperceptibles événements qui tiennent beaucoup de place dans la vie et dont les résultats furent assez importants pour exiger ici la peinture de 2 nouveaux personnages introduits au sein de la famille. Madame Claës avait eu pour principe d'accomplir en secret ses pratiques de dévotion. Son directeur, presque inconnu chez elle, se montrait pour la seconde fois dans sa maison. Mais là, comme ailleurs, on devait être saisi par une sorte d'attendrissement et d'admiration à l'aspect de l'oncle et du neveu. L'abbé de Sully, vieillard octogénaire à chevelure d'argent, montrait un visage décrépit où la vie semblait s'être retirée dans les yeux. Il marchait difficilement, car de ses 2 jambes menues, l'une se terminait par un pied horriblement déformé, contenu dans une espèce de sac de velours qui l'obligeait à se servir d'une béquille quand il n'avait pas le bras de son neveu. Son dos voûté, son corps desséché, offrait le spectacle d'une nature souffrante et frêle, dominée par une volonté de fer et par un chaste esprit religieux qu'il avait conservé. Ce prêtre espagnol, remarquable par un vaste savoir, par une piété vraie, par des connaissances très étendues, avait été successivement dominicain, grand pénitencier de Tolède et vicaire général de l'archevêché de Malines. Sans la Révolution française, la protection des casas réales l'eût porté aux plus hautes dignités de l'Église. Mais le chagrin que lui causa la mort du jeune duc, son élève, le dégoûta d'une vie active, et il se consacra tout entier à l'éducation de son neveu, devenu de très bonne heure orphelin. Lors de la conquête de la Belgique, il s'était fixé près de madame Claës. Dès sa jeunesse, l'abbé de Sully avait professé pour sainte Thérèse un enthousiasme qui le conduisit, autant que la pente de son esprit, vers la partie mystique du christianisme. En trouvant en Flandre, où mademoiselle Bourignon ainsi que les écrivains illuminés et quiétistes firent le plus de prosélytes, un troupeau de catholiques adonnés à ses croyances, il y resta d'autant plus volontiers qu'il y fut considéré comme un patriarche. Par cette communion particulière, où l'on continue à suivre les doctrines des mystiques, malgré les censures qui frappèrent Fénelon et madame Guillon. Ses mœurs étaient rigides, sa vie était exemplaire, et il passait pour avoir des extases. Malgré le détachement qu'un religieux si sévère devait pratiquer pour les choses de ce monde, l'affection qu'il portait à son neveu le rendait soigneux de ses intérêts. Quand il s'agissait d'une œuvre de charité, le vieillard mettait à contribution les fidèles de son église, avant d'avoir recours à sa propre fortune, et son autorité patriarcale était si bien reconnue, ses intentions étaient si pures, sa perspicacité si rarement en défaut, que chacun faisait honneur à ses demandes. Pour avoir une idée du contraste qui existait entre l'oncle et le neveu, il faudrait comparer le vieillard à l'un de ces saules creux qui végètent au bord des eaux, et le jeune homme à l'églantier chargé de roses, dont la tige élégante et droite s'élance du sein de l'arbre moussu qu'il semble vouloir redresser. Sévèrement élevé par son oncle, qui le gardait près de lui comme une matrone garde une vierge, Emmanuel était plein de cette chatouilleuse sensibilité, de cette candeur à demi rêveuse, fleur passagère de toutes les jeunesses, mais vivace dans les âmes nourries de religieux principes. Le vieux prêtre avait comprimé l'expression des sentiments voluptueux chez son élève, en le préparant aux souffrances de la vie, par des travaux continus, par une discipline presque claustrale. Cette éducation, qui devait livrer Emmanuel tout neuf au monde, et le rendre heureux, s'il rencontrait bien dans ses premières affections, l'avait revêtu d'une angélique pureté, qui communiquait à sa personne le charme dont sont investies les jeunes filles. Ses yeux timides, mais doublés d'une âme forte et courageuse, jetaient une lumière qui vibrait dans l'âme, comme le son du cristal épand ses ondulations dans l'ouïe. Sa figure expressive, quoique régulière, se recommandait par une grande précision dans les contours, par l'heureuse disposition des lignes et par le calme profond que donne la paix du cœur. Tout y était harmonieux. Ses cheveux noirs, ses yeux et ses sourcils bruns rehaussaient encore un teint blanc et de vive couleur. Sa voix était celle qu'on attendait d'un si beau visage. Ses mouvements féminins s'accordaient avec la mélodie de sa voix, avec les tendres clartés de son regard. Il semblait ignorer l'attrait qu'excitait la réserve à demi mélancolique de son attitude, la retenue de ses paroles et les soins respectueux qu'il prodiguait à son oncle. À le voir étudiant la marche tortueuse du vieil abbé pour se prêter à ses douloureuses déviations, de manière à ne pas les contrarier, regardant au loin ce qui pouvait lui blesser les pieds et le conduisant dans le meilleur chemin, il était impossible de ne pas reconnaître, chez Emmanuel, les sentiments généreux qui font de l'homme une sublime créature. Il paraissait si grand, en aimant son oncle sans le juger, en lui obéissant sans jamais discuter ses ordres, que chacun voulait voir une prédestination dans le nom suave que lui avait donné sa marraine. Quand, soit chez lui, soit chez les autres, le vieillard exerçait son despotisme de dominicain, Emmanuel relevait la tête parfois si noblement, comme pour protester de sa force. S'il se trouvait aux prises avec un autre homme, que les personnes de cœur étaient émues, comme le sont les artistes à l'aspect d'une grande œuvre, car les beaux sentiments ne sonnent pas moins fort dans l'âme par leur conception vivante que par les réalisations de l'art. Emmanuel avait accompagné son oncle, quand il était venu chez sa pénitente, pour examiner les tableaux de la maison Claës. En apprenant par Martha que l'abbé de Solis était dans la galerie, Marguerite, qui désirait voir cet homme célèbre, avait cherché quelque prétexte menteur pour rejoindre sa mère, afin de satisfaire sa curiosité. Entrée à ses étourdissements, en affectant la légèreté sous laquelle les jeunes filles cachent si bien leurs désirs, elle avait rencontré, près du vieillard vêtu de noir, courbé, déjeté, cadavéreux, la fraîche, la délicieuse figure d'Emmanuel. Les regards également jeunes s'étaient sans doute déjà vus l'un et l'autre dans leurs rêves. Tous deux baissèrent les yeux et les relevèrent ensuite par un même mouvement, en laissant échapper un même aveu. Marguerite prit le bras de sa mère, lui parla tout bas par maintien, et s'abrita pour ainsi dire sous l'aile maternelle, en tendant le cou par un mouvement de signe pour revoir Emmanuel qui, de son côté, restait attaché au bras de son oncle. Quoique habilement distribué pour faire valoir chaque toile, le jour faible de la galerie favorisa ses coups d'œil furtifs, qui sont la joie des gens timides. Sans doute chacun d'eux n'alla pas, même en pensée, jusqu'au « si » par lequel commencent les passions. Mais tous deux ils sentirent ce trouble profond qui remue le cœur, et sur lequel, au jeune âge, on se garde à soi-même le secret, par friandise ou par pudeur. La première impression, qui détermine les débordements d'une sensibilité longtemps contenue, est suivie chez tous les jeunes gens de l'étonnement à demi stupide que causent aux enfants les premières sonneries de la musique. Parmi les enfants, les uns rient et pensent, d'autres ne rient qu'après avoir pensé. Mais ceux dont l'âme est appelée à vivre, de poésie ou d'amour, écoutent longtemps et redemandent la mélodie par un regard, où s'allume déjà le plaisir, où poind la curiosité de l'infini. Si nous aimons irrésistiblement les lieux où nous avons été, dans notre enfance, initiés aux beautés de l'harmonie, Si nous nous souvenons avec délice, et du musicien et même de l'instrument, comment se défendre d'aimer l'être qui, le premier, nous révèle les musiques de la vie? Le premier cœur où nous avons aspiré l'amour, n'est-il pas comme une patrie? Emmanuel et Marguerite furent, l'un pour l'autre, cette voix musicale qui réveille un sens, cette main qui relève des voiles nuageux et montre les rives baignées par les feux du midi. Quand Madame Claës arrêta le vieillard devant un tableau de Guide qui représentait un ange, Marguerite avança la tête pour voir quelle serait l'impression d'Emmanuel. Et le jeune homme chercha Marguerite pour comparer la muette pensée de la toile à la vivante pensée de la créature. Cette involontaire et ravissante flatterie fut comprise et savourée. Le vieil abbé louait gravement cette belle composition, et Madame Claës lui répondait. Mais les deux enfants étaient silencieux. Telle fut leur rencontre. Le jour mystérieux de la galerie, la paix de la maison, la présence des parents, tout contribuait à graver plus avant dans le cœur les traits délicats de ce vaporeux mirage. Mille pensées confuses, qui venaient de pleuvoir chez Marguerite, se calmèrent, firent dans son âme comme une étendue limpide, et se teignirent d'un rayon lumineux quand Emmanuel balbutia quelques phrases en prenant congé de Madame Claës. Cette voix, dont le timbre frais et velouté répandait au cœur des enchantements inouïs, compléta la révélation soudaine qu'Emmanuel avait causée et qu'il devait féconder à son profit. Car l'homme dont se sert le destin pour éveiller l'amour au cœur d'une jeune fille ignore souvent son œuvre et la laisse alors inachevée. Marguerite s'inclina tout interdite et mit ses adieux dans un regard où semblait se peindre le regret de perdre cette pure et charmante vision. Comme l'enfant, elle voulait encore sa mélodie. Cet adieu fut fait au bas du vieil escalier, devant la porte du parloir. Et, quand elle y entra, elle regarda l'oncle et le neveu, jusqu'à ce que la porte de la rue se fût fermée. Madame Claës avait été trop occupée des sujets graves, agitée dans sa conférence avec son directeur, pour avoir pu examiner la physionomie de sa fille. Au moment où M. de Solis et son neveu apparaissaient pour la seconde fois, elle était encore trop violemment troublée pour apercevoir la rougeur qui colora le visage de Marguerite en révélant les fermentations du premier plaisir reçu dans un cœur vierge. Quand le vieil abbé se fut annoncé, Marguerite avait repris son ouvrage et parut y prêter une si grande attention qu'elle salua l'oncle et le neveu sans les regarder. Madame Claës rendit machinalement le salut que lui fit l'abbé de Solis et sortit du parloir comme un homme emporté par ses occupations. Le vieux dominicain s'assit près de sa pénitente en lui jetant un de ces regards profonds par lesquels il sondait les âmes. Il lui avait suffi de voir M. Claës et sa femme pour deviner une catastrophe. « Mes enfants, dit la mère, allez dans le jardin. Marguerite, montrez à Emmanuel les tulipes de votre père. » Marguerite, à demi honteuse, prit le bras de Félicie, regarda le jeune homme qui rougit et qui sortit du parloir en saisissant Jean par contenance. Quand ils furent tous les quatre dans le jardin, Félicie et Jean allèrent de leur côté, quittèrent Marguerite qui, restée presque seule avec le jeune de Solis, le mena devant le buisson de tulipes, invariablement arrangé de la même façon, chaque année, par le mulquinier. « Aimez-vous les tulipes ?» demanda Marguerite, après être demeurée pendant un moment, dans le plus profond silence, sans qu'Emmanuel parût vouloir le rompre. « Mademoiselle, c'est de bien belles fleurs, mais pour les aimer, il faut sans doute en avoir le goût, savoir en apprécier les beautés. Ces fleurs m'éblouissent. » L'habitude du travail, dans la sombre petite chambre où je demeure, près de mon oncle, me fait sans doute préférer ce qui est doux à la vue. En disant ces mots, il contempla Marguerite, mais sans que ce regard plein de confus désirs contînt aucune allusion à la blancheur mate, au calme, aux couleurs tendres qui faisaient de ce visage une fleur. « Vous travaillez donc beaucoup ?» reprit Marguerite, en conduisant Emmanuel sur un banc de bois à dossier, peint en vert. « D'ici, dit-elle en continuant,
Elles vous fatigueront moins les yeux. Vous avez raison. Ces couleurs papillotent et font mal.
À quoi je travaille ? Répondit le jeune homme, après un moment de silence, pendant lequel il avait égalisé sous son pied le sable de l'allée. Je travaille à toutes sortes de choses. Mon oncle voulait me faire prêtre.
Oh !
Fit naïvement Marguerite. J'ai résisté. Je ne me sentais pas de vocation. Mais il m'a fallu beaucoup de courage pour contrarier les désirs de mon oncle. Il est si bon. Il m'aime tant. Il m'a dernièrement acheté un homme pour me sauver de la conscription. Moi, pauvre orphelin.
À quoi vous destinez-vous donc ?
Demanda Marguerite, qui parut vouloir reprendre sa phrase, en laissant échapper un geste, et qui ajouta « Pardon, monsieur, vous devez me trouver bien curieuse. »«
Oh, mademoiselle, » dit Emmanuel en la regardant, avec autant d'admiration que de tendresse, « personne, excepté mon oncle, ne m'a encore fait cette question. J'étudie pour être professeur. Que voulez-vous ? Je ne suis pas riche. Si je puis devenir principal d'un collège en Flandre, j'aurai de quoi vivre modestement, et j'épouserai quelques femmes simples que j'aimerais bien. Telle est la vie que j'ai en perspective. Peut-être est-ce pour cela que je préfère une pâquerette sur laquelle tout le monde passe, dans la plaine d'Orchy, à ces belles tulipes pleines d'or, de pourpre, de saphir, d'émeraude, qui représentent une vie fastueuse, une vie douce et patriarcale, la vie d'un pauvre professeur que je serai.
J'avais toujours appelé, jusqu'à présent, les pâquerettes des marguerites, dit-elle. Emmanuel de Solis rougit excessivement et chercha une réponse en tourmentant le sable avec ses pieds. Embarrassé de choisir entre toutes les idées qui lui venaient et qu'il trouvait sottes, puis décontenancé par le retard qu'il mettait à répondre, il dit « Je n'osais prononcer votre nom » et n'acheva pas. « Professeur, reprit-elle. Oh, mademoiselle, je serai professeur pour avoir un état, mais j'entreprendrai des ouvrages qui pourront me rendre plus grandement utile. J'ai beaucoup de goût pour les travaux historiques.
Ah !
Ce « ah », plein de pensées secrètes, rendit le jeune homme encore plus honteux, et il se mit à rire niaisement en disant
« Vous me faites parler de moi, mademoiselle,
quand je devrais ne vous parler que de vous.
Ma mère et votre oncle ont terminé, je crois, leur conversation, dit-elle en regardant à travers les fenêtres, dans le parloir.
J'ai trouvé madame votre mère bien changée. Elle souffre, sans vouloir dire le sujet de ses souffrances, et nous ne pouvons que pâtir de ses douleurs. Madame Claes venait de terminer, en effet, une consultation délicate, dans laquelle il s'agissait d'un cas de conscience que l'abbé de Solis pouvait seul décider. Prévoyant une ruine complète, elle voulait retenir, à l'insu de Balthazar, qui se souciait peu de ses affaires, une somme considérable sur le prix des tableaux que M. de Solis se chargeait de vendre en Hollande, afin de la cacher et de la réserver pour le moment où la misère pèserait sur sa famille. Après une mûre délibération, et après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles se trouvait sa pénitente, le vieux dominicain avait approuvé cet acte de prudence. Il s'en alla pour s'occuper de cette vente, qui devait se faire secrètement, afin de ne point trop nuire à la considération de M. Claes. Le vieillard envoyait son neveu, muni d'une lettre de recommandation, à Amsterdam, où le jeune homme, enchanté de rendre service à la maison Claes, réussit à vendre les tableaux de la galerie au célèbre banquier A.P. Edenker, pour une somme ostensible de 85 000 ducats de Hollande, et une somme de 15 000 autres qui serait secrètement donnée à Madame Claes. Les tableaux étaient si bien connus qu'il suffisait pour accomplir le marché de la réponse de Balthazar à la lettre que la maison A.P. Edenker lui écrivit. Emmanuel de Solis fut chargé par Claes de recevoir le prix des tableaux
qu'il lui expédia secrètement, afin de dérober à la ville de Douai la connaissance de cette vente. Vers la fin de septembre, Balthazar remboursa les sommes qui lui avaient été prêtées, dégagea ses biens et reprit ses travaux. Mais la maison Claës s'était dépouillée de son plus bel ornement. Aveuglé par sa passion, il ne témoigna pas un regret. Il se croyait si certain de pouvoir promptement réparer cette perte qu'il avait fait faire cette vente à Réméré. 100 toiles peintes n'étaient rien aux yeux de Joséphine auprès du bonheur domestique et la satisfaction de son mari. Elle fit d'ailleurs remplir la galerie avec les tableaux qui meublaient les appartements de réception, et pour dissimuler le vide qu'il laissait dans la maison de devant, elle en changea les ameublements. Ses dettes payées, Balthazar eut environ 200 000 francs à sa disposition pour recommencer ses expériences. L'abbé de Solis et son neveu furent les dépositaires des 15 000 ducats réservés par Madame Claës. Pour grossir cette somme, l'abbé vendit les ducats auxquels les événements de la guerre continentale avaient donné de la valeur. 166 000 francs en écus furent enterrés dans la cave de la maison habitée par l'abbé de Solis. Madame Claës eut le triste bonheur de voir son mari constamment occupé pendant près de 8 mois. Néanmoins, trop rudement atteinte par le coup qu'il lui avait porté, elle tomba dans une maladie de langueur qui devait nécessairement empirer. La science dévora si complètement Balthazar que ni les revers éprouvés par la France, ni la première chute de Napoléon, ni le retour des Bourbons ne le tirèrent de ses occupations. Il n'était ni mari, ni père, ni citoyen. Il fut chimiste. Vers la fin de l'année 1814, Madame Claës était arrivée à un degré de consomption qui ne lui permettait plus de quitter le lit. Ne voulant pas végéter dans sa chambre, où elle avait vécu heureuse, où les souvenirs de son bonheur évanoui lui auraient inspiré d'involontaires comparaisons avec le présent qui l'eussent accablée, elle demeurait dans le parloir. Les médecins avaient favorisé le vœu de son cœur, en trouvant cette pièce plus aérée, plus gaie et plus convenable à sa situation que sa chambre. Le lit où cette malheureuse femme achevait de vivre fut dressé entre la cheminée et la fenêtre qui donnait sur le jardin. Elle passa là ses derniers jours, saintement occupée à perfectionner l'âme de ses deux filles, sur lesquelles elle se plut à laisser rayonner le feu de la sienne. Affaiblie dans ses manifestations, l'amour conjugal permit à l'amour maternel de se déployer. La mère se montra d'autant plus charmante qu'elle avait tardé d'être ainsi. Comme toutes les personnes généreuses, elle éprouvait de sublimes délicatesses de sentiments qu'elle prenait pour des remords. En croyant avoir ravi quelques tendresses dues à ses enfants, elle cherchait à racheter ses torts imaginaires et avait pour eux des attentions, des soins qui la leur rendaient délicieuses. Elle voulait, en quelque sorte, les faire vivre à même son cœur, les couvrir de ses ailes défaillantes et les aimer en un jour pour tous ceux pendant lesquels elle les avait négligés. Les souffrances donnaient à ses caresses, à ses paroles, une onctueuse tiédeur qui s'exhalait de son âme. Ses yeux caressaient ses enfants avant que sa voix ne les émût par des intonations pleines de bon vouloir, et sa main semblait toujours verser sur eux des bénédictions. Si, après avoir repris ses habitudes de luxe, la maison Claës ne reçut bientôt plus personne, si son isolement redevint plus complet, si Balthazar ne donna plus de fête à l'anniversaire de son mariage, la ville de Douai n'en fut pas surprise. D'abord, la maladie de Madame Claës parut une raison suffisante de ce changement, puis le paiement des dettes arrêta le cours des médisances. Enfin, les vicissitudes politiques auxquelles la Flandre fut soumise, la guerre des Cent Jours, l'occupation étrangère, firent complètement oublier le chimiste. Pendant ces 2 années, la ville fut si souvent sur le point d'être prise si consécutivement occupée soit par les Français, soit par les ennemis. Il y vint tant d'étrangers, il s'y réfugia tant de campagnards, il y eut tant d'intérêts soulevés, tant d'existences mises en question, tant de mouvements et de malheurs, que chacun ne pouvait penser qu'à soi. L'abbé de Solis et son neveu, les deux frères Pierre Quint, étaient les seules personnes qui vinssent visiter Madame Claës. L'hiver de 1814 à 1815 fut pour elle la plus douloureuse des agonies. Son mari venait rarement la voir. Il restait bien après le dîner, pendant quelques heures près d'elle. Mais comme elle n'avait plus la force de soutenir une longue conversation, il disait une ou deux phrases, éternellement semblables, s'asseyait, se taisait et laissait régner au parloir un épouvantable silence. Cette monotonie était diversifiée les jours où l'abbé de Solis et son neveu passaient la soirée à la maison Claës. Pendant que le vieil abbé jouait au tric-trac avec Balthazar, Marguerite causait avec Emmanuel, près du lit de sa mère, qui souriait à leurs innocentes joies, sans faire apercevoir combien était à la fois douloureuse et bonne, sur son âme meurtrie, la brise fraîche de ses virginales amours, débordant par vagues et paroles à paroles. L'inflexion de voix qui charmait ses deux enfants lui brisait le cœur. Un coup d'œil d'intelligence, surprise entre eux, la jetait, elle quasi morte, en des souvenirs de ces heures jeunes et heureuses, qui rendaient au présent toute son amertume. Emmanuel et Marguerite avaient une délicatesse qui leur faisait réprimer les délicieux enfantillages de l'amour, pour n'en pas offenser une femme endolorie dont les blessures étaient instinctivement devinées par eux. Personne encore n'a remarqué que les sentiments ont une vie qui leur est propre, une nature qui procède des circonstances au milieu desquelles ils sont nés. Ils gardent et la physionomie des lieux où ils ont grandi et l'empreinte des idées qui ont influencé sur leur développement. Il est des passions ardemment conçues qui restent ardentes, comme celle de Madame Claës pour son mari. Puis il est des sentiments auxquels tout a souri, qui conservent une allégresse matinale. Leurs moissons de joie ne vont jamais sans des rires et des fêtes. Mais ils se rencontrent aussi des amours fatalement encadrés de mélancolie, ou cerclés par le malheur, dont les plaisirs sont pénibles, coûteux, chargés de craintes, empoisonnés par des remords, ou pleins de désespérance. L'amour enseveli dans le cœur d'Emmanuel et de Marguerite, sans que ni l'un ni l'autre ne comprissent encore qu'ils s'en allaient de l'amour, ce sentiment éclos sous la voûte sombre de la galerie Claës, devant un vieil abbé sévère, dans un moment de silence et de calme. Cet amour grave et discret, mais fertile en nuances douces, en voluptés secrètes, savouré comme des grappes volées au coin d'une vigne, subissait la couleur brune, les teintes grises, qui le décorèrent à ses premières heures. En osant se livrer à aucune démonstration vive, devant ce lit de douleur, ces deux enfants agrandissaient leurs jouissances à leur insu, par une concentration qui les imprimait au fond de leur cœur. C'étaient des soins donnés à la malade, et auxquels aimait à participer Emmanuel, heureux de pouvoir s'unir à Marguerite, en se faisant par avance le fils de cette mère. Un remerciement mélancolique remplaçait sur les lèvres de la jeune fille le mielleux langage des amants. Les soupirs de leur cœur, remplis de joie par quelques regards échangés, se distinguaient peu des soupirs arrachés par le spectacle de la douleur maternelle. Leurs bons petits moments d'aveux indirects, de promesses inachevées, d'épanouissements comprimés, pouvaient se comparer à ces allégories peintes par Raphaël, sur des fonds noirs. Ils avaient l'un et l'autre une certitude qu'ils ne s'avouaient pas. Ils savaient le soleil au-dessus d'eux, mais ils ignoraient quel vent chasserait les gros nuages noirs amoncelés sur leur tête. Ils doutaient de l'avenir, et craignant d'être toujours escorté par les souffrances, il restait timidement dans les ombres de ce crépuscule, sans oser se dire « Achèverons-nous ensemble la journée ?» Néanmoins, la tendresse que Madame Claes témoignait à ses enfants cachait noblement tout ce qu'elle se taisait à elle-même. Ses enfants ne lui causaient ni tressaillement ni terreur. Ils étaient sa consolation. Mais ils n'étaient pas sa vie. Elle vivait par eux. Elle mourait pour Balthazar. Quelque pénible que fût pour elle la présence de son mari pensif, durant des heures entières, et qui lui jetait de temps en temps un regard monotone, elle n'oubliait ses douleurs que pendant ces cruels instants. L'indifférence de Balthazar pour cette femme mourante eût semblé criminelle à quelque étranger qui en aurait été le témoin. Mais Madame Claes et ses filles s'y étaient accoutumées, elles connaissaient le cœur de cet homme et l'absolvaient. Si, pendant la journée, Madame Claes subissait quelque crise dangereuse, si elle se trouvait plus mal, si elle paraissait près d'expirer, Claes était le seul, dans la maison et dans la ville, qui l'ignora. Le mulquinier, son valet de chambre, le savait. Mais ni ses filles, auxquelles leur mère imposait silence, ni sa femme, ne lui apprenaient les dangers que courait une créature, jadis si ardemment aimée. Quand son pas retentissait dans la galerie, au moment où il venait dîner, Madame Claes était heureuse. Elle allait le voir. Elle rassemblait ses forces pour goûter cette joie. À l'instant où il entrait, cette femme pâle et demi-morte se colorait vivement, reprenait un semblant de santé, le savant arrivait auprès du lit, lui prenait la main et la voyait sous une fausse apparence. Pour lui seul, elle était bien. Quand il lui demandait « Ma chère femme, comment vous trouvez-vous aujourd'hui ?» elle lui répondait « Mieux, mon ami », et faisait croire à cet homme distrait que le lendemain, elle serait levée, rétablie. La préoccupation de Balthazar était si grande qu'il acceptait la maladie dont mourait sa femme comme une simple indisposition. Moribonde pour tout le monde, elle était vivante pour lui. Une séparation complète entre ses époux fut le résultat de cette année. Claes couchait loin de sa femme, se levait dès le matin et s'enfermait dans son laboratoire ou son cabinet. En ne la voyant plus qu'en présence de ses filles ou des deux ou trois amis qui venaient la visiter, il se déshabitua d'elle. Ces deux êtres, jadis accoutumés à penser ensemble, n'eurent plus, que de loin en loin, ces moments de communication, d'abandon, d'épanchement, qui constituent la vie du cœur, et il vint un moment où ces rares voluptés cessèrent. Les souffrances physiques vinrent au secours de cette pauvre femme et l'aidèrent à supporter un vide, une séparation qui l'eût tuée si elle avait été vivante. Elle éprouva de si vives douleurs que parfois elle fut heureuse de ne pas en rendre témoin celui qu'elle aimait toujours. Elle contemplait Balthazar pendant une partie de la soirée, et le sachant heureux comme il voulait l'être, elle épousait ce bonheur qu'elle lui avait procuré. Cette frêle jouissance lui suffisait. Elle ne se demandait plus si elle était aimée. Elle s'efforçait de le croire et glissait sur cette couche de glace sans oser appuyer, craignant de la rompre et de noyer son cœur dans un affreux néant. Comme nul événement ne troublait ce calme, et que la maladie, qui dévorait lentement Madame Claes, contribuait à cette paix intérieure, en maintenant l'affection conjugale à un état passif, il fut facile d'atteindre, dans ce morne état, les premiers jours de l'année 1816. Vers la fin du mois de février, Pierre Quint le notaire porta le coup qui devait précipiter dans la tombe une femme angélique, dont l'âme, disait l'abbé de Solis, était presque sans péché. « Madame, lui dit-il à l'oreille, en saisissant un moment où ses filles ne pouvaient pas entendre leur conversation. « Monsieur Claes m'a chargé d'emprunter 300 000 francs sur ses propriétés. Prenez des précautions pour la fortune de vos enfants. » Madame Claes joignit les mains, leva les yeux au plafond et remercia le notaire par une inclination de tête bienveillante et par un sourire triste dont il fut ému. Cette phrase fut un coup de poignard qui tua Pepita. Dans cette journée, elle s'était livrée à des réflexions tristes qui lui avaient gonflé le cœur et se trouvait dans une de ces situations où le voyageur, n'ayant plus son équilibre, roule poussé par un léger caillou jusqu'au fond du précipice qu'il a longtemps et courageusement côtoyé. Quand le notaire fut parti, Madame Claes se fit donner par Marguerite tout ce qui lui était nécessaire pour écrire, rassembla ses forces et s'occupa pendant quelques instants d'un écrit testamentaire. Elle s'arrêta plusieurs fois pour contempler sa fille. L'heure des aveux était venue. En conduisant la maison depuis la maladie de sa mère, Marguerite avait si bien réalisé les espérances de la mourante que Madame Claes jeta sur l'avenir de sa famille un coup d'œil sans désespoir, en se voyant revivre dans cet ange aimant et fort. Sans doute ces deux femmes pressentaient de mutuelles et tristes confidences à se faire. La fille regardait sa mère aussitôt que sa mère la regardait, et toutes deux roulaient des larmes dans leurs yeux. Plusieurs fois, Marguerite, au moment où Madame Claes se reposait, disait « Ma mère » comme pour parler. Puis elle s'arrêtait, comme suffoquée, sans que sa mère, trop occupée par ses dernières pensées, lui demandât compte de cette interrogation. Enfin, Madame Claes voulut cacheter sa lettre. Marguerite, qui lui tenait une bougie, se retira par discrétion pour ne pas voir la suscription. « Tu peux lire, mon enfant, » lui dit sa mère d'un ton déchirant. Marguerite vit sa mère traçant ces mots à ma fille Marguerite. « Nous causerons quand je me serai reposée, » ajouta-t-elle en mettant la lettre sous son chevet. Puis elle tomba sur son oreiller, comme épuisée par l'effort qu'elle venait de faire, et dormit durant quelques heures.